Chapitre 32. Un échantillon de ma sagesse. La scène doit changer quand je me déplace. Elle s'est passée pendant un temps à Londres, elle se passe aujourd'hui à Édimbourg. 2 jours s'étaient écoulés depuis le dîner du major Fitz-David. Je me retrouvais en état de respirer librement après l'entière destruction de mes plans d'avenir et des espérances que j'avais fondées sur leur succès. J'avais eu 3 fois tort. Tort en soupçonnant à la hâte une femme innocente. Tort en communiquant à un autre mes soupçons avant d'avoir au préalable essayé de vérifier s'ils étaient fondés. Tort enfin en acceptant les hypothèses et les conclusions hasardées de Misery Musexter comme autant d'indubitables vérités. J'étais si honteuse de ma folie quand je songeais au passé, si absolument découragée, si fortement ébranlée dans ma confiance en moi en songeant à l'avenir, qu'une fois dans cette voie, j'acceptais tout avis raisonnable qui m'était offert. « Ma chère, me dit le bon vieux Benjamin en revenant de notre dîner et après avoir causé à fond de mon désappointement. J'ai beau songer à ce que vous m'avez dit, je ne puis me faire à votre monsieur Dexter. Promettez-moi de ne pas retourner chez lui sans avoir préalablement consulté quelque personne plus à même que moi de vous guider dans cette tâche périlleuse. » Je lui en fis la promesse à une condition. « Si je ne puis réussir à trouver cette personne, lui dis-je, voudrez-vous m'assister ?» Benjamin promit de m'aider de tout son cœur. Le lendemain matin, en me peignant, je songeais à mes affaires et me rappelais une résolution oubliée que j'avais prise alors que pour la première fois, je lisais le procès de mon mari. Je veux parler de la résolution, au cas où Misery Musexter viendrait à me manquer, de m'adresser à l'un des deux agents ou sollicitors, comme vous voudrez les appeler, qui avait préparé la défense d'Eustache, entre autres M. Playmore. Ce gentleman, on doit se le rappeler, s'était spécialement recommandé à ma confiance par son amicale intervention lorsque les officiers du shérif recherchaient les papiers de mon mari. En me reportant à la déposition d'Isaïe Schoolcraft, je trouvais que M. Playmore avait été appelé pour assister et conseiller Eustache par Misery Musexter. Ce n'était donc pas seulement un ami sur lequel je pouvais compter, mais un ami qui était aussi personnellement lié avec Misery Musexter. Pouvait-il y avoir un homme à qui s'adresser qui fût plus à même que lui de m'éclairer dans les ténèbres qui m'enveloppaient? Benjamin, à qui je posais cette question, convint que j'avais fait en cette circonstance un très bon choix et me vint tout de suite en aide. Il découvrit, par l'intermédiaire de son homme de loi, l'adresse des agents de M. Playmore à Londres et il obtint de ses agents une lettre d'introduction pour moi auprès de M. Playmore lui-même. Je n'avais rien à cacher à mon nouveau conseil et je fus désignée dans la lettre comme la seconde femme de Eustache McAllan. Dès le même soir, nous nous mîmes en route, Benjamin ne voulant pas me laisser voyager seul, par le convoi de nuit pour Édimbourg. J'avais préalablement écrit dans la journée à Misery Musexter. Je lui disais simplement que j'étais obligé, d'une façon inattendue, à quitter Londres pour quelques jours et qu'à mon retour, j'irai lui faire connaître le résultat de mon entrevue avec Lady Clarinda. La réponse caractéristique que voici fut rapportée au cottage par Ariel. « Madame Valéria, je suis homme de perception rapide et je puis lire entre les lignes de votre lettre ce qui n'y est pas écrit. Lady Clarinda a ébranlé votre confiance en moi. C'est bien, je m'engage à ébranler votre confiance en Lady Clarinda. Du reste, je ne vous en veux pas. J'attends avec calme l'honneur et le bonheur de votre visite. Faites-moi savoir par le télégraphe si les truffes vous plaisent toujours ou si vous préférez quelque chose de plus doux et de plus léger. » Croyez-moi toujours votre allié et admirateur, votre poète et cuisinier, Dexter. Arrivés à Édimbourg, nous eûmes, Benjamin et moi, une petite discussion. Il s'agissait de savoir si j'irais avec lui ou seul chez M. Playmore. J'étais d'avis de m'y rendre seul. Mon expérience du monde n'est pas bien grande, lui dis-je, mais j'ai observé que, 9 fois sur 10, un homme fait à une femme qui vient seule à lui des concessions qu'il hésiterait à faire si un autre homme était présent. Je ne sais pourquoi cela est ainsi, mais je sais que cela est. Si je vois que les choses ne vont pas comme je voudrais avec M. Playmore, je lui demanderai une seconde entrevue et cette fois vous m'accompagnerez. Ne me croyez pas entière dans mon opinion. Laissez-moi risquer seul cet essai et nous verrons ce qui arrivera. Benjamin se rendit à mes raisons avec sa déférence ordinaire. J'envoyai ma lettre d'introduction au cabinet de M. Playmore, dont l'habitation particulière était dans le voisinage de Gleninch. Mon messager me rapporta une réponse polie, m'invitant à venir le voir dans l'après-midi. À l'heure fixée, je sonnai à sa porte.